Bien, je voudrais dire tout de suite que le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, parce que ça pourrait laisser supposer que je vais vous faire des prédictions et que je sais d'avance ce qui va se passer dans l'avenir de notre monde. Je n'ai pas cette prétention, je n'apporterai pas ce soir des prédictions, par exemple à la Nostradamus, comme quelqu'un qui aurait eu des visions exceptionnelles. Je ne me pose pas en prophète, et je n'ai pas non plus la prétention de faire de la prospective qui se veut scientifique comme on le fait aujourd'hui. Parce que cette prospective aujourd'hui me frappe pour une raison particulière, c'est qu'il y a des prospecteurs, si on peut employer ce mot-là, optimistes, et des prospecteurs pessimistes. Et qu'à partir des mêmes éléments de réflexion et d'observation sur le monde actuel, vous trouvez des gens qui dépeignent l'avenir en rose, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, il faut dire, et d'autres qui ont tendance à peindre l'avenir en noir. Il y a les optimistes, c'est-à-dire ceux qui croient au progrès. Un des exemples les plus frappants de prospective pleine d'espérance, c'est le livre écrit par des auteurs américains, dont le principal est Herman Kahn, L'an 2000. Un gros bouquin qui a été publié, je crois, chez Lafon, il y a déjà une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Cet optimisme est fondé principalement sur la constatation quand même du progrès remarquable qui s'est manifesté dans l'histoire des hommes. Nous nous trouvons aujourd'hui à une époque de contestation, et souvent à juste titre, mais si nous pensons à la manière dont vivaient nos grands-parents, nous devons reconnaître qu'il y a eu des progrès extraordinaires. Je vous donne un exemple très simple. À la fin du 19e siècle, les socialistes de l'époque avaient comme une revendication fondamentale, dans beaucoup de cas, le pain gratuit pour tous. Parce que le pain gratuit, c'était vraiment la possibilité de ne pas mourir de faim. Aujourd'hui, ça n'intéresserait personne, le pain gratuit. En tout cas, dans nos pays occidentaux. Parce que le pain, c'est acquis. Il y a encore des choses qu'on voudrait acheter qu'on ne peut pas acheter, les croissants par exemple, le pain gratuit, ça n'intéresse plus parce que la perspective de mourir de faim en France, ça ne nous touche pas, alors que ça touchait quantité de gens autrefois. Je pense ici à un livre d'un écrivain qui est lui aussi assez optimiste, Jean Fourastier, qui a écrit un ouvrage de prospective intitulé « Les 40 000 heures ». 40 000 heures, pour lui, c'est le nombre d'heures que nous serons amenés à travailler dans notre vie avant la fin de ce siècle. Ce qui représente une journée de 6 heures, 4 fois par semaine, simplement. Et Jean Fourastier, avec sa femme, a publié un ouvrage que je vous recommande très vivement, qui est d'un très grand intérêt. Ça s'appelle « Les écrivains témoins du peuple ». Au contraire des livres d'histoire que j'avais à l'école primaire, Jean Fourastier s'est intéressé à chercher les auteurs qui racontent la vie du peuple, et pas des rois et des courtisans de Versailles, mais des vrais gens, quoi, des vrais Français. Eh bien, dans son livre, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais on voit quand même, enfin, de quel marasme économique, de quelle détresse le peuple français a fini par émerger. Il y a eu un progrès indiscutable et il est certain que la science a joué un rôle très important dans ce progrès. Marie Curie disait « Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Autrefois, l'homme était soumis aux forces naturelles, à la faim, au froid, à la maladie, il y avait une mortalité énorme. L'homme vivait dans une peur continuelle à l'égard des puissances inconnues du monde dans lesquelles il voyait facilement des dieux ou des démons. Et il était animé par un impératif, c'était celui de survivre. Simplement survivre. Aujourd'hui, on se préoccupe de vivre. On parle de niveau de vie et de qualité de vie. La question de la survie est dépassée dans les pays occidentaux encore. Hein. Il ne faut pas évidemment généraliser. Mais cela vient en grande partie de ce que l'homme est devenu maître de son milieu naturel. Il le domine, il le domestique. La faim est vaincu dans certains pays par une meilleure agriculture, une agriculture plus variée. En France, par exemple, ce qui a supprimé les dernières grandes famines, c'est l'introduction de la pomme de terre. Avant, tout reposait sur la récolte de blé. Une mauvaise récolte, c'était la famine. La pomme de terre, généralement, a une bonne récolte quand celle du blé est mauvaise. Et ça a été la fin de la famine. C'est quelque chose de purement technique, mais d'extrêmement important. La maladie a été largement conquise par la médecine. La misère a été surmontée en décuplant la force de l'homme par des machines. Il y a eu un progrès indiscutable des techniques de production et une élévation assez extraordinaire du niveau de vie. Quand on lit ce livre, là, Les écrivains témoins du peuple, on est quand même frappé par un certain nombre de choses. Et la nourriture, par exemple, dont se contentaient les travailleurs du siècle dernier, personne n'en voudrait aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Moi, j'ai dirigé pendant 5 ans un foyer de jeunes travailleurs. Mais si j'avais voulu donner ce que mangeait l'ouvrier du début du siècle, ben, je me serais fait tuer, il n'y a pas de problème. Et il est indiscutable que la science et l'éducation ont joué un rôle important dans ce progrès, en particulier en créant une mentalité nouvelle. Et cette mentalité, c'est au fond un refus du fatalisme, de la résignation, un esprit de conquête. Cet esprit de conquête se manifeste sur le plan scientifique, technique. On veut toujours aller plus loin. Ça se manifeste aussi sur le plan politique, en ce sens qu'on n'accepte pas aussi facilement les situations qu'on acceptait autrefois. Ces constatations, donc, ont poussé certains hommes à voir une poursuite du progrès qui dessine un avenir plutôt souriant pour l'humanité. On peut espérer que les choses vont continuer à s'améliorer. Là, ce sont ce qu'on pourrait appeler les prospecteurs ou les prophètes de progrès. Mais ils ne sont pas les seuls. Et aujourd'hui, on trouve au contraire un grand nombre de personnes qui voient l'avenir sous une forme assez sombre. La question a été posée il y a quelques années à des jeunes en vacances dans un lieu de villégiature en France, enfin dans toute une région. Et on a demandé aux jeunes, au cours d'une enquête, comment ils voyaient l'avenir du monde. La très grosse majorité ont répondu à peu près ceci: il n'y a aucun doute, le monde va à la catastrophe. Depuis quelques années, en particulier, les cris d'alarme se multiplient. On avait l'habitude de voir les hommes s'efforcer de détruire leurs ennemis. On les voit maintenant se détruire eux-mêmes par les poisons qu'ils absorbent, par la destruction de la terre qui les fait vivre, par la pollution de l'air et de l'eau. Et puis aussi maintenant par la destruction des ressources naturelles. Je vais vous donner ici quelques titres d'ouvrages récents qui nous permettent de mesurer un peu l'angoisse de nos contemporains, d'ouvrages qui ont presque tous été écrits avant la fameuse crise de l'énergie, c'est-à-dire avant 1974, quand le prix du pétrole a sensiblement augmenté. L'homme et la terre en péril. Réflexion au bord du gouffre. Le suicide des démocraties, la course à la mort, la nature dénaturée. Et je voudrais m'arrêter particulièrement sur deux de ces ouvrages, enfin deux auteurs plus exactement. D'abord le journaliste bien connu de la télévision, François de Closet, qui en 1970 a écrit un livre intitulé « En danger de progrès ». Et il y avait un sous-titre, une menace, la science, un espoir, la science. Le thème du livre était que la science et la technique ont trahi les espoirs du 19e siècle, mais, François de Closet disait, la solution est à chercher du côté de la science et de la technique pour remédier aux mauvaises utilisations des découvertes et des progrès. En 1973, le même auteur a publié un ouvrage intitulé « Le bonheur en plus ». Et je cite ici, au lieu de faciliter les réalisations d'un bonheur authentique, le progrès ne fournit que des améliorations illusoires. L'électroménager ne libère pas la femme, les véhicules rapides ne suppriment pas les embouteillages, les jouets modernes ne rendent pas les enfants plus heureux, la télévision ne compense pas la solitude, la prospérité économique ne supprime pas les inégalités. Et la conclusion que tirait alors François de Closet, c'est que il faut avant tout une prise de conscience, un changement dans l'opinion, une évolution dans les esprits, en un mot, un changement de mentalité. Et je reviendrai sur cette expression « changement de mentalité » parce que je crois que c'est sans doute la meilleure traduction française de l'expression biblique que l'on traduit généralement par « repentance » ou quelquefois « pénitence ». Depuis, il y a eu la crise pétrolière qui a révélé quand même à beaucoup de gens qui avançaient aveuglément qu'il y a quelque chose de faussé dans notre course à la richesse, au pouvoir, à la consommation, au gaspillage. Et beaucoup de gens ont commencé à s'interroger, beaucoup timidement, parce qu'on est pris dans une sorte d'engrenage, dans une machine qui tourne, mais qui nous donne maintenant l'impression de tourner à vide, c'est-à-dire vers quoi va-t-elle, on n'en sait rien. Et ça ne semble en tout cas pas être vers le bonheur de l'humanité. Une machine qui produit, mais qui produit quoi? Et surtout, pourquoi faire? Dans quel but? Et pour qui? Il y a eu des progrès, certes, c'est indiscutable, mais ces progrès s'accompagnent de ce qu'on a appelé des invités inattendus, c'est-à-dire toutes sortes de malheurs, de catastrophes, quelquefois même, inattendues, qu'on n'avait pas prévues et qui nous retrouvent comme au coin d'un bois. Et le dernier livre auquel je voudrais faire allusion, c'est celui d'un journaliste anglais, Gordon Lattray Taylor, qui est intitulé en français « Le jugement dernier » et qui commence par une citation de l'Apocalypse. Vous voyez tout de suite où je veux arriver, puisque nous nous trouvons dans cette salle où il y a cette exposition de l'Apocalypse de Sassandra. Mais ce qui est frappant, ce journaliste anglais met surtout l'accent sur le problème de la pollution, de la destruction de l'environnement, de l'empoisonnement de l'air et de l'eau, de la destruction des richesses naturelles, etc. Et il voit là comme une sorte de jugement de Dieu sur notre monde, sur notre civilisation. Et je crois qu'effectivement, c'est vrai qu'ici, il rejoint l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre étrange. J'ai lu tout à l'heure les remarques qui avaient été faites par des visiteurs de l'exposition. Beaucoup étaient frappés par sa vigueur, mais beaucoup aussi étaient un peu inquiets du caractère extrêmement sombre et dur, pessimiste, qui se dégage de ces tableaux. Et c'est vrai que l'Apocalypse est un livre qui n'a pas très bonne réputation à cet égard. Ça passe vraiment comme un livre qui annonce des catastrophes, si bien qu'aujourd'hui le mot apocalypse est devenu en français courant pratiquement synonyme de catastrophe. C'est une véritable apocalypse. Mais je crois que nous ne comprenons pas très bien le sens de l'apocalypse. Je vois que demain il y aura une conférence sur ce sujet. Je ne vais pas entrer dans le détail du tout aujourd'hui. Mais je voudrais surtout signaler un aspect de ce que l'apocalypse cherche à dire. Toutes ces catastrophes qui semblent s'annoncer, être annoncées par le prophète, apparaissent comme un jugement de Dieu sur un monde qui a pris une direction fausse. L'Apocalypse, ne l'oublions pas, a été écrite dans l'Empire romain, mais à un moment qui allait marquer, c'était vers pourtant assez proche du début de l'Empire, déjà la décadence de l'Empire romain, une décadence que cet empire avait amenée sur lui-même. Et les chrétiens de l'époque vivaient dans un climat de persécution et de terreur. Si bien qu'une grande partie des scènes extrêmement, presque traumatisantes que l'on peut voir sur ces tableaux ne sont pas simplement de la part de l'apôtre Jean une sorte de projection de ses fantasmes sur l'avenir, mais plutôt la traduction d'une expérience vécue ou d'une expérience qui pourrait très bien se produire dans un avenir proche et se reproduire dans l'histoire. Et il y a en particulier dans l'Apocalypse un verset qui me paraît en résumer le sens de cette idée de jugement de Dieu sur une civilisation, sur un monde qui s'égare et qui se détruit lui-même. C'est au chapitre 11 de l'Apocalypse, un verset qui nous dit que le temps est venu, c'est vu prophétiquement, où Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Et je crois que c'est là un des sens importants de l'idée de jugement dans la Bible, c'est que ça n'est pas un Dieu vindicatif qui se frotte les mains en disant « je vais vous avoir au tournant ». Mais c'est plutôt un Dieu qui veut que la terre vive. Et pour qu'elle vive, il faut qu'en soit extirpé ceux qui la détruisent, justement. Et dans ce sens, nous devons essayer de lire l'Apocalypse non pas comme une sorte d'histoire racontée à l'avance par quelqu'un qui se complaît à voir le côté le plus noir, le plus sombre, le côté de terreur, si vous voulez, mais quelqu'un qui cherche au contraire à avertir les hommes qu'une certaine façon de vivre et qu'une certaine façon de faire entraîne la catastrophe. Et je crois que c'est justement dans ce sens-là que le journaliste anglais Taylor est arrivé à écrire son livre sous le titre « Le jugement dernier ». Le jugement de Dieu, ça n'est pas simplement, ça peut aussi être cela, si vous voulez, une intervention extérieure de Dieu, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui est à l'intérieur de la vie du monde. Il y a des choses qui entraînent leur propre jugement. Et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Le jugement, c'est donc d'abord un diagnostic. L'idée du jugement de Dieu fait peur. Les prophètes de malheur ne sont jamais populaires. Mais pourtant, ce message de jugement est un aspect indiscutable de la Bible, et de toute la Bible, et pas seulement de l'Apocalypse. Ce n'est pas le seul, certes. Et lorsque l'Église l'a isolé du reste de l'Évangile, elle a pu donner aux hommes l'impression que Dieu était un Dieu hargneux, prenant plaisir à punir. Et il se pourrait que certains de ces tableaux donnent cette impression si on les sort de leur contexte. Et je sais que Sassandra lui-même, à qui j'en ai parlé à plusieurs reprises, reconnaît qu'il a davantage été frappé et inspiré par cet aspect de l'Apocalypse, mais qui n'est pas la totalité du livre. C'est en tout cas pas la totalité de la Bible. Mais je crois que cette question de jugement est une question qu'il ne faut pas éliminer trop vite. Je crois qu'il ne faut pas le comprendre comme un coup de baguette magique pour punir tous les méchants. Autrement dit, le jugement de Dieu n'est pas la cause de nos malheurs. Il en est beaucoup plus la constatation, la révélation, si vous voulez. Jésus disait, « Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les guerres qui ravagent notre monde sont un jugement de Dieu sur notre culte de la puissance. » Et la pollution qui détruit la terre, les famines dont souffrent tant d'hommes, sont un jugement de Dieu sur notre soif de profit. Il y a un aspect important dans l'idée de jugement qui est celle d'avertissement. Les jugements dans la Bible ont souvent un caractère, ils ne sont pas simplement une affirmation de ce qui va se passer, mais un appel à changer de mentalité. Si vous ne changez pas, voilà ce qui va se passer. Et à cet égard, ça me fait penser à un épisode qui s'est passé il y a quelques années sur l'autoroute du Sud. Il y a eu une violente tempête de neige qui a bloqué l'autoroute du Sud dans la vallée du Rhône. Et alors on a téléphoné aux différents péages pour dire aux employés des péages, ne laissez pas entrer, les gens ne pourront pas passer, ils vont être bloqués. Alors les employés des péages ont cherché à dire ça. Mais il y a des automobilistes qui les ont envoyés promener en disant, peut-être pas sous cette forme exactement, mais en les considérant comme des prophètes de malheur, vous me laissez libre, je fais ce que je veux. Ils sont engagés quand même dans l'autoroute et certains d'entre eux ont passé une nuit ou plusieurs, et une journée parfois, bloqués dans une voiture complètement réfrigérée par des congères de neige. Est-ce que les employés du péage auraient dû se taire? Ou est-ce que le fait de parler, d'annoncer une catastrophe aux automobilistes, ça n'était pas au contraire un service qui leur était rendu? Quelle protestation indignée n'aurait-on pas entendu s'ils n'avaient rien dit et si ensuite les automobilistes s'étaient trouvés coincés? Ça m'est arrivé, moi, un jour, de m'engager sur le périphérique et de me trouver bloqué autour de Paris pendant 3 heures parce qu'un peu plus haut, un camion rempli de suifs s'était renversé sur la chaussée. J'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise avant de m'engager. Et lorsque Dieu nous dit dans la Bible « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et dont le cœur se détourne du Seigneur », ce n'est pas le cri de dépit d'un Dieu vindicatif, mais la parole d'amour de celui qui ne prend pas son parti de nous voir périr. Et je crois que l'Apocalypse peut être lu sous cette forme, et doit être lu sous cette forme. La notion de jugement est également inséparable de celle de responsabilité. La responsabilité n'est pas d'abord une notion morale, mais je crois qu'on peut le dire religieuse. Elle est fondée sur l'idée que on ne peut pas s'en tirer à bon compte si on fait du tort aux autres. Si on détruit la terre, il n'est pas pensable que nous nous en tirions à bon compte. Comme si, par une pirouette en disant « je m'en lave les mains » ou bien « après moi le déluge ». La notion de responsabilité implique que nous sommes responsables, nous devons répondre de nos actions devant Dieu d'abord, mais aussi devant les hommes. Mais devant les hommes, on réussit souvent à s'échapper. Devant Dieu, on ne peut pas. Et une chose qui me paraît absolument importante dans toutes les circonstances de l'histoire, c'est que les hommes se reconnaissent responsables. J'ajouterai un dernier mot qui me paraît important quand on pense à l'avenir du monde. C'est que le jugement de Dieu, c'est aussi l'assurance que la vérité sur le monde, sur la vie et sur les actions des hommes paraîtra. Nous vivons dans un monde de mensonges, dans un monde où, comme disaient les prophètes d'autrefois, on appelle mal le bien et bien le mal, où les puissants peuvent faire croire qu'ils ont raison, qu'ils sont dans le vrai, puisque tout leur réussit. Il suffit d'écouter, par exemple, des discours politiques de point de vue tout à fait opposé pour se rendre compte que dans beaucoup de paroles, il y a derrière une apparence de vérité toutes sortes d'arrière-pensées qui ne vous sont pas dévoilées. Nous vivons dans un monde où la vérité des êtres, des choses et des choses n'apparaît pas toujours. L'annonce du jugement dernier, c'est l'annonce qu'en fin de compte, Dieu aura le dernier mot et que sa vérité apparaîtra et restera. Et alors la Bible affirme que son jugement sera libérateur parce qu'il rétablira la justice. Le pouvoir et la richesse des empires est toujours fondé peu ou prou sur l'oppression des faibles, l'exploitation des petits, la persécution des non-conformistes, en un mot sur l'injustice. C'était clairement le cas de la Rome antique. L'Empire romain, auquel était confronté le visionnaire de l'Apocalypse, était un empire qui avait assuré dans le monde d'autrefois une certaine paix. On parlait beaucoup de la paix romaine. L'Empire romain avait favorisé les échanges commerciaux et l'enrichissement de beaucoup. L'Empire romain était fier de sa force, fier de son ordre. L'ordre romain, c'était quelque chose d'extraordinaire, et c'est de cet ordre qu'est né ce qu'on appelle le droit romain, une législation qui a considérablement influencé la nôtre encore aujourd'hui. Mais l'Empire romain était aussi fondé sur une force extrêmement cruelle, sur une oppression, sur l'écrasement des peuples qui ne se soumettaient pas. L'Empire romain fondait aussi toute sa force sur l'esclavage. La liberté des citoyens romains, qui était une chose dont ils se glorifiaient, quelque chose d'extraordinaire pour eux, n'était possible qu'à cause de l'esclavage à l'époque. Nous savons qu'il y a eu des révoltes d'esclaves. Nous savons aussi qu'un grand nombre des premiers chrétiens étaient des esclaves. Et sinon des esclaves, d'autres étaient de petites gens. Ils étaient de ceux qui étaient opprimés dans ce grand ensemble qui se réjouissait, qui se targuait de sa richesse et de sa force, et qui croyait aussi que le progrès de l'époque allait aller sans discontinuer. Et je voudrais faire ici un parallèle, voyez-vous, entre l'annonce du jugement de Dieu sur l'Empire romain dans l'Apocalypse et un message que je crois nous avons besoin d'entendre aujourd'hui dans notre monde, et qui, je crois, est aussi un jugement de Dieu sur notre époque et sur la civilisation occidentale en particulier, parce qu'on peut bien sûr l'appliquer aux autres aussi, mais je crois qu'il faut toujours balayer devant sa porte d'abord et se demander ce que ça nous dit à nous. Dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, vous avez la description de la richesse, de la gloire, et puis ensuite de la chute de la grande Babylone, qui est aussi appelée la grande prostituée. Je crois qu'il ne fait aucun doute que cette grande prostituée appelée Babylone représente d'abord, dans la vision de Jean, l'Empire romain, la cité de l'empereur Rome. Je dis d'abord parce que je crois que l'Apocalypse est un livre qui a d'abord été écrit pour les chrétiens de son temps, de cette époque. Il y avait un message pour eux, mais que les personnages, les événements, les institutions de l'époque ont une valeur représentative et que le message qui les concerne porte aussi sur des institutions comparables, qui jouent un rôle comparable dans l'histoire des hommes, en particulier par leur opposition à Dieu, à d'autres époques. Si bien que il y a, si vous voulez, une application immédiate à l'époque de l'apôtre Jean et une application seconde qui est tout aussi importante et qui nous concerne aujourd'hui. Rome apparaît sous les traits d'une ville d'une grande richesse et d'une grande puissance, mais comme une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. L'idée de prostituée ici est liée en grande partie au paganisme, à l'idolâtrie. Dans la Bible, l'idolâtrie est synonyme de prostitution, ou réciproquement si vous voulez. La prostitution, l'idolâtrie est une prostitution parce qu'elle est une infidélité au seul vrai Dieu. Les peuples païens sont souvent accusés de prostitution dans l'Ancien Testament, et les citations de l'Ancien Testament qu'on trouve nombreuses dans Apocalypse 17 et 18 se réfèrent presque toutes à des passages des prophètes où Dieu condamne les grandes puissances d'autrefois qui s'opposent au dessein de Dieu, en particulier Tyr et Babylone. Et Babylone est devenue dans l'Ancien Testament la désignation typique des empires opposés à Dieu qui mettent leur gloire dans leur force, dans la puissance militaire, dans la capacité d'écraser leurs ennemis. Quant à Tyr, c'est plutôt la cité du commerce, de l'accumulation des richesses. C'était vraiment un centre de grand commerce, et en particulier de commerce maritime, qui enrichissait les Phéniciens de l'époque. La Rome impériale correspond parfaitement à ce portrait. Rome, siège d'un immense empire qui se croit tout-puissant, Rome qui se vautre dans le luxe, et il y a dans ces chapitres des descriptions de luxe extraordinaires, et Rome qui persécute l'Église du Christ, parce que non seulement elle adore d'autres dieux, mais surtout parce que son empereur se fait lui-même adorer comme Dieu. Un certain nombre de détails confirment cette identification. Au chapitre 17, le verset 9, il est question des 7 collines. Rome était appelée la ville aux 7 collines. Il est question aussi d'une ville assise au bord des grandes eaux. Rome se trouve au bord du Tibre, à proximité de la Méditerranée. Mais comme je vous le disais, le message de Jean ne s'arrête pas à la Rome historique. Rome, comme Babylone, représente toute civilisation, toute société humaine qui se glorifie de sa force et de sa richesse et qui par là s'oppose à Dieu, refuse les limites que Dieu assigne aux hommes, autrement dit, se fait Dieu et tombe dans l'idolâtrie. C'est là, comme je vous le disais, ce qui explique l'image de la prostituée. Je crois que l'idolâtrie qui est visée ici, ce n'est pas tellement tous les dieux des Romains, il y en avait une kyrielle. C'est une époque où naissaient toutes sortes de religions nouvelles, de cultes de mystère en particulier. Mais l'idolâtrie qui est particulièrement visée dans ce chapitre me paraît être clairement le culte du pouvoir et le culte de la richesse. Et je voudrais dire 2 mots de ces 2 cultes qui, je crois, sont également des idolâtries de notre époque. Le culte du pouvoir. Toujours et partout, les hommes adorent la puissance. Vous voyez ici au chapitre 17, il nous est dit que les habitants de la terre sont dans l'étonnement devant cette bête. Ils sont dans l'admiration devant le pouvoir de cette nation qui est l'Empire romain d'abord, mais qui, je crois, représente toutes les nations qui mettent leur orgueil dans leur puissance. Les rois d'autrefois étaient assimilés à des dieux. L'empereur de Rome se faisait offrir des sacrifices et exigeait la confession « César est Seigneur ». Et le motif principal de persécution des premiers chrétiens, c'était leur refus de sacrifier à l'empereur et de dire « César est Seigneur ». Une religion de plus, ça ne gênait pas l'Empire romain. Si les chrétiens avaient adoré Jésus-Christ et en même temps offert un sacrifice à César, ils auraient eu la bénédiction de l'empereur. Ça ne posait aucun problème. Mais c'est leur refus de reconnaître dans César, le détenteur du pouvoir, un dieu, c'est ce refus-là qui a amené les persécutions. La prostituée du chapitre 17, c'est donc la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Et au chapitre 18, elle se vante. « Je trône en rêve, en reine, et je ne suis pas veuve. Jamais je ne connaîtrai le deuil. » Cet orgueil, cette confiance en soi, c'est précisément ce qui va entraîner sa perte. Voilà pourquoi en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamné. Et je peux dire qu'on retrouve là une constante du message prophétique de l'Ancien Testament et du message de Jésus lui-même. C'est le jugement de Dieu contre l'orgueil des puissants, contre la prétention des grands de ce monde à se faire l'égal de Dieu. Ézéchiel, en particulier, a vivement condamné la ville de Tyr à cause de cet orgueil. Je crois qu'il faut signaler aussi un autre aspect de l'idolâtrie du pouvoir, c'est la persécution contre tous ceux qui refusent d'adorer ce pouvoir, d'où la persécution de l'Église par les empereurs romains. La prostituée de l'Apocalypse, nous dit Jean, s'enivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. En la condamnant, Dieu venge le sang de ses serviteurs. Or, je crois que le culte du pouvoir, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à une époque de l'histoire. Et il est malheureusement vrai que une grande partie du progrès scientifique a été animée ou suscitée beaucoup moins par le désir de rendre les hommes plus heureux que par le désir d'être plus puissant. Je prends un exemple. Aux États-Unis, qui est sans doute le pays le plus riche de la Terre, des sommes fabuleuses peuvent être dépensées pour des recherches à condition que la défense, l'armée ou la marine ou l'armée de l'air en profitent. Mais des recherches purement désintéressées n'ont que des miettes de l'argent qui va aux recherches pouvant avoir une utilité militaire. Pensez à la conquête de l'espace. Hein, toutes ces sommes absolument fabuleuses qui ont été dépensées tant en URSS qu'aux États-Unis d'ailleurs pour cette conquête de l'espace. Mais vous savez bien, je pense qu'aux États-Unis, c'est l'armée, la marine, enfin, qui ont mené cette recherche et qui ont reçu tout cet argent. Ce n'est pas des organismes désintéressés. La recherche de la puissance est au cœur aussi souvent du progrès industriel. Dans son livre que je mentionnais tout à l'heure, François de Closet faisait souligner que ce qui meut les chefs d'industrie, c'est souvent beaucoup moins la recherche du profit, ce qui n'est pourtant pas négligeable, que la recherche du pouvoir qu'on peut avoir. Et je lisais aujourd'hui, je crois que c'est dans Le Monde qui a paru hier donc, une citation de Jean Jaurès qui reconnaissait que les chefs d'industrie n'étaient pas tous mus par la soif de profit, mais par le désir de progresser. Et je crois que ce désir de progresser est souvent un désir de pouvoir. La recherche du pouvoir est aussi très grande à notre époque. Et si dans les pays occidentaux, elle est peut-être plus dispersée, et dans les pays de type socialiste, elle est davantage ramassée, je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale entre ces deux types de régimes sur ce plan. Je voudrais continuer en parlant du culte de la richesse qui est aussi clairement condamné dans ces deux chapitres de l'Apocalypse. Nous voyons en particulier qu'il nous est dit que les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. La femme est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tient dans sa main une coupe d'or. Et qu'au moment où elle s'écroule, les gens disent « Oh, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de pierres précieuses et d'or. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Il y a dans ce passage, à part dans ces versets-là, la lamentation des marchands. Et nous avons une liste d'objets et de produits de luxe à l'usage de la jeunesse dorée et des gourmets de la Rome antique. Je ne sais pas si nous nous faisons une idée de ce que pouvait être ce luxe. La meilleure idée qu'on puisse se faire accessible à tout le monde, c'est encore les albums d'Astérix en France. Dans certains d'entre eux, on voit enfin à quel point les grands, les chefs du peuple pouvaient se vautrer dans le luxe. Le culte de l'argent, le culte de la richesse, de ce dieu que la Bible appelle Mammon, et c'est un facteur de destruction pour un peuple, et ça entraîne le jugement de Dieu sur ce peuple. D'autant plus que la richesse et le luxe, quand ils ne connaissent plus de limites, sont une source de corruption morale et religieuse. Les auteurs latins de l'époque dressent un portrait saisissant de cette décadence morale. On pourrait aussi citer certains films, par exemple Fellini, qui a su décrire ça. L'ostentation le disputait à l'extravagance. Vitellius, par exemple, a dépensé en un an 70 millions anciens en nourriture et en boissons uniquement. Le riche comme le puissant se croit au-dessus des lois, au-dessus de la loi divine en particulier. Tout lui est permis, tous les plaisirs, toutes les orgies, tous les excès. Or, je crois que cela aussi est un jugement. C'est là aussi quelque chose qu'on ne peut pas laisser courir. Il faut qu'un jour la vérité apparaisse et que l'homme en particulier n'est pas fait pour se vautrer dans le luxe sur le dos de ses frères, parce que c'est toujours sur le dos des autres qu'on s'enrichit. Et nous n'avons pas le droit d'oublier dans nos pays occidentaux que notre richesse et notre confort sont payés dans une très large mesure par la pauvreté des pays du tiers-monde. À notre époque, je crois que ces mêmes dieux de la puissance et de la richesse entraînent ou risquent d'entraîner le monde, s'il n'y a pas de changement de mentalité, à une catastrophe. Tant que les hommes adoreront le pouvoir et la richesse, malgré toutes leurs capacités de progrès qui sont réelles, je crois que nous ne nous en sortirons pas. Je pourrais ici vous donner quelques citations d'auteurs contemporains. Théodore Monod, par exemple. Une idéologie belliqueuse et orgueilleuse, la mythologie d'un roi de la création chargé de conquérir, de dominer, de domestiquer sans souci, ni des conséquences pour lui-même, ni bien sûr des autres êtres vivants, devait nous permettre de ravager la planète en toute bonne conscience. Et d'autant plus facilement que de son côté, la religion du profit allait rendre licite n'importe quel méfait du moment que l'assurance d'un gain venait l'absoudre, voire le sanctionner. Karl Lorenz, un écrivain autrichien qui a étudié particulièrement les animaux, mais qui a aussi, à partir des animaux, étudié l'homme, ce qui n'est pas toujours possible peut-être, a écrit un livre, Les huit péchés capitaux de notre civilisation. Il dit ceci, l'écrasante majorité de nos contemporains n'accorde plus d'importance qu'à la réussite, à ce qui permet de vaincre les autres dans une contrainte impitoyable de dépassement. Tout moyen propre à atteindre ce but apparaît faussement comme une valeur en soi. À l'origine, l'argent était un moyen. Or, combien de personnes sont encore capables de comprendre que l'argent n'est pas une valeur en soi? Ceci nous montre, voyez-vous, que ce désir de puissance et de richesse ne se manifeste pas uniquement au sommet, dans les empereurs romains par exemple, mais ça est aussi possible à n'importe quel homme. N'importe lequel d'entre nous peut penser qu'il est appelé à la puissance maximum et à la richesse maximum, et que c'est ça qui compte. Et je crois que notre civilisation nous pousse dans ce sens-là. Plus vous êtes riche, mieux ça vaut. Plus vous êtes puissant, mieux ça vaut. Et tant pis si c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Je voudrais citer encore un auteur sud-américain qui parle de l'utopie d'une société de consommation globale et sans besoin. C'est révélé une utopie illusoire, le maximum possible, voyez-vous. La technique, au lieu de libérer les hommes, les a rendus esclaves d'une manière plus subtile. La société moderne a cru pouvoir répondre par son abondance économique aux problèmes fondamentaux de l'homme. Et justement, aujourd'hui, on s'aperçoit que, en développant cette puissance, eh bien, on arrive à détruire la Terre. Parce que, pour développer la puissance, il faut exploiter au maximum les richesses naturelles. Il ne faut pas de frein. Or, tout ce qui empêcherait la pollution, c'est un frein à notre puissance et à notre richesse, à notre course à la richesse. Nous en prenons conscience aujourd'hui et nous commençons à nous en inquiéter. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement un changement de mentalité. Nous souhaitons freiner un petit peu, mais nous ne sommes pas prêts à réfléchir vraiment, à nous arrêter pour nous demander quel est le sens de ce progrès. Et je voudrais ici vous citer un autre auteur contemporain, George Friedman, un sociologue connu, qui dénonce le grand déséquilibre, la disproportion croissante entre, d'une part, la puissance multiforme, cette immense puissance développée sans contrôle moral que le progrès technique confère à l'homme, et d'autre part, les forces morales dont l'homme dispose pour le mettre pleinement au service de l'individu et de la société. Nous avons développé, si vous voulez, les forces physiques, mais nous n'avons pas progressé dans le domaine des forces morales, et nous sommes toujours animés par le désir d'avoir plus, de pouvoir plus, auquel on pourrait ajouter d'ailleurs celui de paraître, sans nous soucier de ce qui pourrait donner un sens à notre pouvoir qui est réel et à notre argent qui est nécessaire. La marche irréversible du progrès technique s'accompagne de la destruction du milieu naturel et du déracinement de l'homme qui se retrouve ainsi inférieur à ses œuvres. La misère de l'homme, écrasée par les produits de son intelligence, débordée par les applications de la science, étouffant sous ses bureaucraties, ses pseudo-rationalisations, se débattant, s'épuisant à travers les guerres, les révolutions manquées, s'élançant dans l'espace et se dégradant sur la terre, incapable d'instituer par-delà l'égoïsme des États souverains le contrôle supranational des armes nucléaires, celui de la production et de la distribution des aliments. Et alors, Friedman en tire la conclusion suivante. L'homme est aujourd'hui sommé d'opérer une conversion intérieure qui est bien autre chose et plus qu'une adaptation psychologique au nouveau milieu. Seule cette conversion peut lui permettre de prendre en main, lui ouvrir sur le plan de l'individu comme sur ceux de la société et de l'espèce, une voie de salut. Et voyez-vous, en ce sens, je crois que nous pouvons dire que le jugement de Dieu sur une civilisation fondée sur la puissance et le profit, comparable à celle de Rome condamnée par le visionnaire de l'Apocalypse. Et je crois que l'Apocalypse condamne déjà, à l'avance, prophétiquement, notre civilisation. Nous devons recevoir ce message de jugement, d'abord comme un appel à prendre conscience d'une situation. Si ça continue, nous allons à la catastrophe. Mais un appel aussi à changer, à faire demi-tour, à cette conversion dont parle Friedman, à un changement de mentalité. Et ce message d'appel à la repentance est toujours au centre du message biblique. Quand Dieu dénonce le péché, pour employer ce terme qui est celui de la Bible, c'est toujours pour appeler les hommes à la repentance, c'est toujours pour délivrer les hommes d'un chemin sans issue, pour les faire naître à une vie nouvelle. Et l'Apocalypse, comme le reste de la Bible, n'a pas qu'un côté sombre, il y a aussi un côté de lumière. Et ce côté de lumière révèle la possibilité d'un changement, la possibilité pour une humanité de se tourner vers Dieu, pour les hommes d'entendre une autre voix que celle qui lui dit d'avoir plus, de pouvoir plus à chaque instant, que celle de la ronde infernale de la possession et de la puissance. Il y a un autre chemin, il y a une autre façon de vivre qui ne conduit pas à la ruine, mais qui conduit au contraire à la lumière glorieuse du royaume de Dieu. L'avenir pour le monde, ce n'est pas quelque chose qui est programmé une fois pour toutes, c'est quelque chose qui nous est proposé comme une décision à prendre, un choix que nous avons à prendre. Et cet autre chemin, eh bien je crois que c'est Jésus qui nous l'a montré. En Jésus-Christ, nous avons celui qui a su renoncer au pouvoir et à la richesse pour vivre de l'amour. Celui qui a su rechercher non pas le plus, mais le pourquoi, qui a recherché à inscrire dans sa vie et dans la vie du monde, non pas des moyens, mais une fin. Et cette fin, ce but, le seul qui envahit la peine, c'est l'amour. Et cette fin n'est possible que dans l'assurance de l'amour de Dieu, qui a été le motif qui a conduit Jésus dans toutes ses actions, qui l'a poussé à aller jusqu'à la croix du calvaire, par laquelle il juge notre égoïsme, notre façon de vivre, notre volonté de puissance, notre prétention à nous passer de Dieu et à nous choisir d'autres dieux, ou plus exactement à nous faire nous-mêmes Dieu. Il y a dans la croix un jugement réciproque. Il y a les hommes qui jugent Jésus-Christ et qui le rejettent, qui ne veulent pas de lui, qui ne veulent pas de sa soumission à Dieu, de sa foi en Dieu, qui ne veulent pas de son amour, qui veulent continuer à construire le monde sur leur puissance, leur richesse. Mais la croix de Jésus-Christ en retour, la croix de Jésus-Christ éclairée par la résurrection, dans laquelle Dieu donne raison à Jésus-Christ contre tous les hommes qui cherchent à construire un autre monde que le sien, juge, comme le fait l'Apocalypse, tous nos efforts pour construire un monde sans Dieu et contre Dieu, un monde fondé sur la puissance de l'homme, qui est une puissance destructrice. En Jésus-Christ, la vie apparaît. Et c'est pourquoi l'Apocalypse se termine aussi par cette vision glorieuse qui est celle de la victoire de Jésus-Christ. C'est la victoire de la vie, c'est la victoire de l'amour qui est proposée aussi à notre monde. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'assurance que l'échec n'est pas irrémédiable, que Dieu est là pour transformer en victoire la défaite, que Dieu est là pour faire jaillir la vie là où les hommes font jaillir la mort. Et si Dieu détruit ceux qui détruisent la terre, c'est pour faire vivre ceux qui sont détruits par leur propre folie ou par la folie des autres hommes. Et c'est pourquoi, même dans les périodes les plus sombres, comme celles qui sont représentées dans l'Apocalypse, c'est un message d'espérance, mais d'une espérance qui passe par un appel à la repentance, à un changement de mentalité qui reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu vivant qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui accepte de se fier à lui au lieu de se fier à notre sagesse humaine. Le livre de Friedman que je vous citais est intitulé « La puissance et la sagesse ». Mais la sagesse des hommes n'est que folie tant qu'elle n'est pas à l'écoute de la sagesse de Dieu et qu'elle n'est pas fondée sur la foi au Dieu d'amour qui a montré son amour en Jésus-Christ et qui a montré qu'il y a un autre chemin plus fort que la destruction puisque Jésus est ressuscité. Et j'aimerais que ce soit cet appel-là que nous entendions ce soir.